Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Monsieur Jean Toussely Fortuné Montina. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le premier lauréat du prix Mémoire et Thèse. Alors déjà, toutes nos félicitations.
Merci beaucoup. Merci pour vos encouragements et vos félicitations.
Alors, en quoi consistait ce concours ?
Le but, c'était surtout de produire un document qui parle de la finance. Alors, je dis bien donc document, une thèse, donc des travaux de recherche vraiment qui portent sur la finance et tout ce qui se rapporte aux critères ESG. Donc, l'idée, c'était vraiment de me présenter, de porter ma candidature et de concourir justement à ce concours.
Et qu'est-ce qui vous a incité à vous inscrire à ce concours ?
Bon, c'est juste une opportunité. Donc, il y avait une fenêtre de tir, donc je l'ai saisie, c'est tout.
ESG, qu'est-ce que cela signifie ?
Alors, environnement, social et gouvernance. Donc voilà, donc tout ce qui tourne autour de l'environnement, tout ce qui tourne autour des rapports sociaux et de la gouvernance au sein des entreprises.
Cela a un rapport avec vos études ?
Exactement, puisque mon sujet de thèse était articulé autour de la finance durable, autour des critères environnementaux.
Voilà. Quelle était la thématique exacte de la thèse que vous avez soutenue à l'Université de Guyane ?
Alors, l'intitulé, c'est « Les sociétés civiles de placement immobilier face aux enjeux environnementaux ».
Qu'est-ce que vous recherchiez ? Qu'est-ce que vous vouliez démontrer à travers cette thèse ?
Voilà, surtout de montrer qu'une entreprise, en tout cas les entreprises aujourd'hui, peuvent être vraiment, employer leur activité et mettre à contribution justement leur activité pour améliorer les conditions environnementales, les critères environnementaux en fait qui leur sont soumis par certaines législations. Donc vraiment montrer que les activités peuvent être en adéquation avec l'environnement.
Comment l'avez-vous soutenu cette thèse ? Comment l'avez-vous financé cette thèse ?
Avec mes fonds propres, voilà. Donc c'est essentiellement avec mes fonds propres. Mais malgré tout, au niveau de la recherche, au niveau des déplacements, j'ai eu le soutien de mon laboratoire, donc Minea. Donc je salue effectivement la présidente du laboratoire, c'est Madame Danglade. Et à l'époque, c'était Madame Amiri. Donc je les salue toutes donc, pour cette opportunité qu'elles m'ont offerte.
Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de votre cursus ?
Alors, j'ai un bac ES, économique et social. J'ai fait une licence en droit, donc 3 années. J'ai une maîtrise en droit privé. J'ai un master professionnel banque assurance immobilier et le doctorat.
Et des études effectuées principalement en Guyane ?
Oui, voilà. Et comme dit le maire de Rémière-Montjoly, M. Plénette, dit c'est le pur jus voilà, de la Guyane. Donc effectivement, ça c'est j'ai effectué vraiment pratiquement toute ma scolarité en Guyane, sauf le master. J'ai effectué malheureusement, je l'ai effectué quand même aux Antilles, puisqu'on n'avait pas à ce moment de master ni de maîtrise en droit en fait à l'université de Guyane. Donc j'ai dû me déplacer finalement pour continuer là-bas et je suis revenu pour faire mon doctorat ici.
C'était un choix de votre part ou parce que vous n'aviez pas le choix ?
Bon, on n'avait pas le choix hein, puisque après la licence, il n'y avait plus de master, il n'y avait pas de maîtrise et ni de master en droit. Donc on était contraints vraiment de partir soit à l'Hexagone ou aux Antilles. Donc moi j'ai préféré aller aux Antilles et c'était formidable, une très belle expérience aussi.
Vous vous destinez à quel domaine, quel secteur, l'enseignement ?
L'enseignement, si une porte s'ouvre, bien sûr. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais pour l'instant, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux rien dire. Voilà.
Vous êtes sur le marché du travail, vous cherchez des opportunités ?
Alors, j'ai mon cabinet, donc le cabinet d'Exo, qui est un cabinet de gestion de patrimoine. Donc ça fait pratiquement 4 ans que j'ai ce cabinet. Donc je compte continuer à poursuivre justement mes activités au sein de ce cabinet.
Donc vous n'êtes pas passé par la case salariat, vous vous êtes mis tout de suite à votre compte.
Voilà, malheureusement, j'ai pas été salarié, j'ai pas d'expérience en tant que salarié. Donc j'ai tout de suite été, on va dire, dans le vif du sujet en étant entrepreneur. Voilà.
Ce n'est pas handicapant pour vous ?
Non, puisque c'est une voie. Pour moi, je pense aussi que c'est une vocation. Donc du coup, j'ai pas hésité vraiment à aller à l'aventure et à faire justement, à créer cette entreprise.
Alors, peut-être que les auditeurs vont se dire, ou les internautes, tout ça pour ça, aller jusqu'au doctorat pour se lancer dans la gestion du patrimoine. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire autant d'années d'études ?
Ben en fait, pour tout vous dire, c'était pour ma mère surtout, puisque je lui ai ramené mon brevet, elle a dit que c'était pas un diplôme, je lui ai ramené mon bac, elle avait dit que c'était pas un diplôme, je lui ai ramené ma licence, elle m'a encore dit que c'était pas un diplôme, je lui ai ramené ma maîtrise, elle a dit que c'est pas un diplôme, et je lui ai ramené mon master, elle a encore dit que c'était pas un diplôme. Donc là, malheureusement, elle est décédée, donc elle n'a pas pu voir l'achèvement justement de cette thèse. Et je me suis dit, bon, il faut vraiment que j'aille jusqu'au bout et lui ramener un diplôme de doctorat et peut-être qu'elle sera satisfaite. Donc malheureusement, voilà. Mais je sais qu'elle est satisfaite puisqu'elle m'encourageait déjà et c'était une façon pour elle de me dire d'aller vraiment beaucoup plus loin, vraiment dans mes études. Et c'est ce que j'ai fait en réalité.
C'était pas forcément votre objectif premier, c'était... pas en tout cas d'ouvrir un cabinet.
C'était quand même mon objectif, mais les choses se sont déroulées maintenant d'une autre manière. Et comme je vous ai dit, ma mère m'a toujours poussé en fait à aller plus loin. Donc moi, j'ai voulu encore aller plus loin et lui prouver vraiment que j'avais vraiment les capacités. Donc c'était ça, on va dire, l'objectif. Et j'y suis arrivé.
Alors, qu'est-ce que ça change pour vous, le fait d'être premier lauréat du prix Mémoire et Thèse ?
Ah non, ça ne change pas grand-chose, c'est-à-dire que la vie continue. Ils ont simplement montré de l'intérêt à ma production et je suis vraiment très, très content, très heureux que, ben, en fait, d'avoir été primé et d'avoir eu cette distinction parmi tant d'autres. Donc cela montre que vraiment qu'en Guyane, qu'on peut faire de grandes choses, que les jeunes peuvent vraiment aller plus loin et qu'ils ont aussi des capacités à faire des choses. Donc voilà, pour moi, c'est plus symbolique. Voilà, je voulais vraiment marquer le coup et surtout en montrant, on va dire, à mon entourage que ben, si on se donne les moyens, on peut quand même y arriver.
Alors, vous avez dû vous rendre jusqu'à Paris. Expliquez-nous comment... s'est passé ce concours, est-ce qu'il a fallu présenter des travaux devant un jury, est-ce qu'il a fallu mettre à profit, en tout cas montrer votre excellence en éloquence pour convaincre le jury ?
Alors, éloquence, je ne sais pas, mais ce que je suis quand même convaincu, c'est que, alors, ils ont reçu ces travaux, ils étaient très satisfaits et très contents, puisque ce sont des professionnels de la finance et il y a aussi des députés, ils pourront s'appuyer sur ces travaux pour émettre des amendements, donc c'est quand même important. Et effectivement, la difficulté que moi j'avais eue, alors que j'ai eue, c'était plutôt la distance. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais collaboré avec l'Université de Guyane et ils ne collaborent pas avec l'Université de Guyane. Donc du coup, accéder justement à cette plateforme était quand même assez compliqué. Et j'ai vraiment fait le forcing en leur disant, ben, je vous donne quand même ma thèse, vous allez voir, vous faites ce que vous voulez, mais après, voilà, je veux quand même malgré tout saisir cette opportunité. Et j'ai reçu, on va dire, les résultats moins d'une semaine avant mon départ. Donc du coup, j'ai dû partir rapidement, vraiment me présenter. Et voilà, c'était, on va dire ça, l'intérêt vraiment pour moi de montrer que, ben, qu'il y a quand même quelqu'un qui vient et qui participe à la cérémonie. Et puisque à la base, ils ne financent pas le départ, donc malheureusement. Et, mais moi, j'ai tenu quand même à y aller et pour ne pas aussi, pour permettre aussi à d'autres vraiment d'y aller. Dans le sens où si moi, je n'étais pas je n'étais pas parti, ils auraient peut-être dit que finalement, ben, ça ne vaut pas le coup en fait, d'introduire l'Université de Guyane dans ce concours, puisqu'il y a toujours cette difficulté de déplacement et tout. Donc moi, j'ai surtout voulu aller vraiment pour permettre aussi aux autres d'avoir cette chance vraiment d'y participer.
À ce concours, vous avez représenté l'Université de Guyane.
Bon, représenter l'Université de Guyane, je ne vais pas avoir, on va dire, cette prétention de dire que je représente une institution, mais je viens quand même de l'Université de Guyane, je suis quand même un produit de l'Université de Guyane. Donc, en ce sens, je pourrais dire que je suis allé avec cette étiquette. Voilà.
Et vous vous intéressez à l'actualité, à la politique, ou vous avez d'autres sujets peut-être de prédilection ?
Bon, c'est-à-dire qu'il y a énormément de chantiers en vue. Il y a énormément de problématiques aussi sur le plan, dans notre territoire en fait. Et c'est un sujet qui est quand même assez délicat. Il faut trouver des solutions, on a beaucoup de problèmes. Je pense pas que... je suis très prudent, on va dire, sur ce type de sujet. Ce sont des sujets aussi qui me tiennent à cœur et j'en parle avec beaucoup de passion et surtout avec beaucoup d'émotion. Je pense qu'il aurait fallu même peut-être avoir un autre format vraiment pour discuter, puisqu'on pourrait discuter de longuement. Mais bien sûr, il y a des problématiques, il y a aussi des solutions. Mais comme j'aime dire, la Guyane a énormément de potentiel, il faut simplement les utiliser. Et mettre aussi toutes les chances de notre côté, voilà. Et c'était aussi pour cela que ce concours pour moi était important, puisque quand je suis parti, il y avait peu de personnes vraiment qui connaissaient où se trouvait la Guyane, et s'il y en avait même, une université. Donc c'était pour moi l'occasion vraiment de mettre en lumière ce territoire et surtout l'institution universitaire.
Vous êtes le premier Guyanais à avoir participé à ce concours ?
Je pense que oui. Voilà, je pense que oui, puisque à la base, ils étaient surpris en fait de voir un étudiant, en tout cas un doctorant, venir de Guyane et présenter. Et en fait, pour eux, c'était comme il n'y avait pas c'était quelque chose qu'ils ne voyaient pas trop. Donc du coup, ils m'ont dit à la base, ils n'étaient pas trop partants. Par la suite, ils ont dit oui, bon, on vous ouvre quand même les portes. Et ça, j'étais vraiment très, très content. Donc, je pense que oui.
Alors, dans Focus, on aime bien faire intervenir nos invités sur l'actualité de la région, du département. Qu'est-ce qui vous a marqué ces derniers jours, ces dernières semaines dans l'actualité en Guyane ?
Ben, il y a énormément de choses, effectivement, qu'on peut dire. Je n'aimerais pas aller, on va dire...
Un ou deux sujets en particulier.
Bon, il y a le sujet, déjà, il y a la Miss Guyane qui a été première dauphine. On attendait vraiment énormément d'elle. Elle est venue avec une très belle récompense. Et c'est une très bonne chose. Elle a su vraiment représenter ce territoire et mettre en lumière ce territoire. Donc ça, c'est déjà un premier sujet et je l'en félicite. Et bien sûr, après, bon, il y a des sujets un peu plus tristes.
Vous pensez auquel ?
Mais au phénomène, par exemple, de mules. Voilà, au phénomène de mules. Il y a encore, comme je vous dis, de très grands chantiers en fait en vue. Il y a de très grandes problématiques. Il faut absolument trouver des solutions afin de répondre justement à ça, puisque en réalité, ce qu'on ne voit pas, on voit les jeunes, mais on ne voit pas les familles. Ce sont des mères qui sont tristes, qui sont attristées, ce sont des pères qui sont attristés, voire parfois leur enfant en fait évoluer dans cet environnement et partir, on va dire, dans ces activités, ben en fait ça fait beaucoup de peine en fait. Donc du coup, l'idée c'est vraiment de trouver des solutions afin vraiment de répondre, mais pas de trouver des solutions en faisant encore des préventions. Ça a du sens, mais je pense qu'il faudrait encore aller vraiment plus directement à la source et vraiment de traiter le problème. Et je pense que si on va avec une démarche méthodologique, bien sûr, on peut trouver des solutions. Et énormément, il y a énormément de problématiques, mais on pourra, sous un autre format, vraiment en discuter.
Alors vous, vous avez grandi en Guyane. Est-ce que à un moment ou un autre, vous avez été approché ou vous avez des amis qui se sont laissés tenter par cette occasion?
Bon, c'est-à-dire que je pense que je suis un rescapé puisque j'ai grandi vraiment dans un quartier très 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 difficile. Et sincèrement,
où ça?
Bon, sincèrement, je ne veux pas forcément le dire, mais je vais laisser ça quand même en suspens, mais j'ai grandi quand même dans un quartier vraiment très difficile et j'ai surtout reçu une éducation, puisque en réalité, en fait, ma mère nous disait souvent qu'elle nous laissait deux choses dans la vie, l'église et l'école, voilà, c'est les grandes personnes, hein. C'est l'église, plutôt prier, voilà, et puis l'école, voilà, on a tout de suite vu que... cette vie était quand même assez hostile et qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. Et on a voulu surtout, en tout cas moi, j'ai voulu rendre hommage à ma mère et la rendre fière en fait. Et bien sûr, donc oui, j'ai des amis malheureusement qui sont tombés, on va dire. Mais vous savez, il faut se relever, voilà. On peut tomber, parfois on peut faire des erreurs dans la vie. Mais le tout, c'est vraiment de se relever et puis d'aller de l'avant. Et je pense qu'il y a des jeunes en ce moment qui sont dans cette démarche d'aller de l'avant et de trouver leur vocation. Donc, voilà.
Alors, vous avez ouvert votre cabinet après avoir obtenu un doctorat. Aujourd'hui, vous êtes docteur. Ça y est, vous avez atteint la phase ultime. C'est une consécration pour vous?
Oui, mais c'est-à-dire, je suis docteur, après ce n'est qu'un titre, je pense que le plus important, ce n'est pas forcément le titre, mais c'est là où on évolue, voilà. Au-delà de tout cela, en fait, moi, la question que je me pose, mais dans quelle société que je veux vivre et dans quelle société que quelle société que je veux laisser aussi pour mes enfants? Et et la question et l'enjeu. Voilà, c'est-à-dire qu'en Guyane, on a des problématiques et l'idée, c'est vraiment de résoudre justement tous ces problèmes, en tout cas la grande majorité des problèmes, afin qu'on ait une société vivable où on peut s'épanouir. Donc c'est ça vraiment l'idée, au-delà de tout aspect gratifiant.
Ça, c'est un discours de politique, non?
Non, c'est pas un discours de politique, puisque on vit dans un territoire et on veut à la fin être heureux. On recherche le bonheur, on veut être épanoui, on veut trouver du boulot, on veut avoir de quoi se nourrir et tout. Et le titre, voilà, il est bien, il n'y a pas de souci. Mais il y a encore du travail à faire. Donc j'ai aussi une association.
Qui s'appelle l'objet?
Alors l'association Promo Guyane. Donc nous, ce qu'on fait, on met en lumière les jeunes talents de la musique vraiment guyanaise, vraiment leur permettre d'accompagner par exemple des artistes qui viennent de l'étranger, qui viennent ici performer. Donc, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'objectifs, énormément d'enjeux, et l'idée, c'est vraiment, au-delà de tout aspect de titre, de position, vraiment, c'est d'apporter des solutions justement aux problématiques qui s'imposent à notre territoire. Et pour moi, franchement, c'est mon objectif premier, c'est de se dire comment je peux contribuer à améliorer les conditions de vie dans ce territoire. Et c'est pas un discours politique, mais ça peut être simplement, je vois un passant, je lui fais un sourire, je lui parle, je lui dis finalement comment ça va, on peut en discuter, voilà. Ou finalement voir une personne qui est dans le besoin et lui tendre la main. Ça, c'est vraiment mon objectif, vraiment vivre dans une société d'entraide où il y a la paix, où vraiment on peut s'épanouir. C'est ça, c'est réellement ça mon objectif.
Vous êtes un intellectuel altruiste?
Bon, intellectuel, je ne sais pas, mais ce que je souhaite, c'est surtout améliorer les conditions de vie améliorer la vie même dans cette société et vraiment qu'on ait un territoire déjà attractif, mais aussi un territoire où on peut vivre, où nos enfants aussi peuvent vivre.
Ouais. Alors, rappelez-nous votre expertise et ce que vous apportez comme solution à vos clients dans votre cabinet.
Bon, voilà, c'est-à-dire que je suis dans l'organisation patrimoniale, donc je gère le patrimoine financier et immobilier de mes clients. Donc, certains clients ne veulent pas forcément aller en banque et donner une pleine gestion au conseiller, donc ils vont dans un cabinet privé, donc cabinet de gestion de patrimoine, et confient leurs biens, leur patrimoine financier ou immobilier à un gestionnaire privé, voilà, et de manière discrétionnaire, on s'occupe de ces biens, donc de ces patrimoines.
Et vous parvenez à vous faire un portefeuille client important?
Oui, voilà. Alors, l'idée, ce n'est pas d'avoir, on va dire, un portefeuille volumineux. On recherche surtout la qualité.
Donc, c'est-à-dire des gens qui ont beaucoup d'argent.
Bon, des gens qui ont quand même des moyens, voilà.
Et vous êtes seul dans ce cabinet ou vous mutualisez vos moyens?
Alors, j'ai un collaborateur. Et on va encore étendre justement l'activité de ce cabinet et accueillir d'autres candidatures vraiment pour donner, on va dire, plus d'ampleur justement à l'activité.
Comment vous voyez-vous dans les mois qui viennent? Quels sont vos projets? Quels sont vos objectifs?
Bon, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai présenté en début d'interview, je n'ai pas malheureusement une boule de cristal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît, aujourd'hui on ne connaît pas demain. Voilà, donc sincèrement, effectivement, il y a des projets. Donc on souhaite vraiment les réaliser. Mon objectif actuellement, c'est surtout me concentrer sur la société, vraiment, et voir jusqu'où je pourrais aller, et voilà. Et j'ai un petit coin, dans un petit coin de ma tête, effectivement, ben, l'idée de encore ben, de réaliser certaines activités sur le département, dans le territoire, pour, comme je vous ai dit, présenter d'autres opportunités à certains jeunes, voilà.
Dans un cadre associatif.
Dans un cadre, bien sûr, associatif, oui.
Très bien, merci beaucoup d'avoir été notre invité dans Focus. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter? Dites-nous depuis quand existe la société également?
Alors, depuis 2019, voilà. Donc, ben, en fait, ce que je souhaite, alors, c'est vraiment qu'on ait un meilleur territoire. C'est-à-dire que les décideurs prennent conscience vraiment des enjeux, des problématiques, et que ça ne soit pas simplement des fonctions, que des fonctions, mais des initiatives, des actions, vraiment. Je pense qu'on a une chance, il faut la saisir, et on pourra réussir ensemble, collectivement. La Guyane, c'est plusieurs populations, mais c'est qu'un peuple. Donc, on pourra aller de l'avant, mais si on est solidaire et si on s'accepte l'un et l'autre, je pense qu'on pourra faire de grandes choses. Mais il va falloir commencer par ça.
Voilà. Plusieurs fois, vous avez cité votre mère. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui ont contribué à votre réussite?
Ma mère, puisque vous savez, une maman, elle donne tout.
Et l'église aussi peut-être.
Voilà, ben, elle nous a donné que deux choses. Donc notre croyance, voilà, notre foi et l'école. Puis rien d'autre encore. Elle nous a dit qu'elle n'a rien à voir. Elle n'avait qu'un balai. Donc en réalité, si je devrais peut-être résumer tout cela, c'est un balai qui m'a mis, on va dire, dans cette position aujourd'hui. Et je respecte, puisque une mère, c'est voilà. Moi, si je pouvais, j'aurais donné des millions pour qu'elle soit encore avec moi. Vous voyez, puisqu'une mère, c'est une mère. On pourra pas, on n'a qu'une mère. Hein. On n'a qu'une mère à la fois. Voilà, donc, oui, elle a tout donné. Elle a tout sacrifié. Elle a beaucoup d'humiliation, bien sûr, beaucoup d'humiliation. Et tout cela, en fait, j'ai tout cela dans un coin de ma tête. Donc, du coup, ça m'a vraiment donné, on va dire, du courage et surtout d'une abnégation pour réussir et pour lui rendre fier. Donc c'était un peu ça mon objectif. Bon, ben, je pense que je l'ai atteint et je pense qu'elle est fière. Voilà.
Est-ce que vous êtes un produit de la République? Est-ce que vous êtes vous pouvez dire que vous incarnez l'égalité que l'on voit sur le fronton de certaines de nos institutions?
Bon, vous savez, la seule chose que je peux dire, c'est qu'un bout de balai m'a mis aujourd'hui là.
Mais grâce à l'école, quelque part.
Voilà, mais grâce à l'école. Mais c'est quand même le bout de balai, puisqu'il faut le respecter aussi, puisque l'école produit aussi des inégalités. Et je pouvais moi-même tomber, on va dire, dans le découragement et sortir du circuit, en fait. Parce qu'il y a certaines choses que je n'ai pas pu retrouver, en fait, à l'école. Voilà. Donc, malheureusement, et c'est pour ça que moi, je donne beaucoup de sens, puisque si elle n'était pas là, je n'aurais pas pu finalement présenter cette thèse. Donc du coup, je donne beaucoup d'importance à cela et je veux aussi surtout dire, faire prendre conscience aux jeunes que vous avez aussi une mère et cette mère-là veut vous pousser, donner de la valeur à vos mamans en fait. C'est simplement ça, puisque ce que les sacrifices qu'une mère fait, mais c'est quand même considérable. Donc il faut donner de la valeur à cela et moi j'appuie vraiment dessus. Et pour encourager les mamans à pousser leurs enfants, mais surtout aussi à encourager les enfants, en fait, à rendre fiers leur mère. Voilà.
Les pères, ça peut aussi compter, non?
Oui, père-mère, voilà, pour l'éducation des enfants. Mais moi, effectivement, j'ai grandi qu'avec une mère, comme il y aura dit Potomitan. Donc voilà, donc qu'avec une mère, donc voilà. Mais bien sûr, le père aussi a sa part de responsabilité et aussi, mais de fierté aussi dans la réussite des enfants, bien sûr.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans Focus.
Merci beaucoup.